magnifique musique d'ascenseur aujourd'hui pour cet angle mort un peu en retard. J'avais de la misère avec mes sujets aujourd'hui. Mais j'ai quelque chose de bien juteux pour vous autres. Dans le journal de Montréal et de Québec, on voit un article sur deux Montréalais qui ont créé Reddix, qui est une bande dessinée, un genre de robot. Et puis, ils poursuivent Marvel en disant que le nouveau suit dans le dernier Iron Man copie des éléments. Alors là, ils pointent vraiment, par exemple, le coude, un truc qui est sur le genou, etc. Bon, blablabla. Et moi, cette notion-là de copiage, ça m'intéresse beaucoup. Évidemment, je peux pas me prononcer sur ce cas-là précisément, parce que même si on voit des images où est-ce qu'ils montrent, tu sais, que ça, c'est comme ça, etc., mais bref. Mais moi, j'ai été vraiment dans le cœur de tout ça parce que j'ai été gérant d'artiste, puis par définition, un artiste, surtout un artiste qui est un peu insécure, tient mordicus à son matériel. Parce que quand c'était des humoristes, c'est quand tout à coup ils ont une bonne joke, puis c'est eux autres qui l'ont créé, ben pour eux autres, c'est une pépite d'or, tu sais. Puis c'est comme ça ressemble à ma joke, etc. Les plus vieux oublient ça parce qu'à un moment donné, ils se font un nom, puis ils sont au-dessus de ça, mais les plus jeunes, ils sont bien crinqués de ça, tu sais. Puis tous et chacun, on a cette façon-là d'aborder, si tu veux, l'idée que les autres pourraient piquer nos idées, puis auraient piqué notre travail, notre savoir-faire ou autre. Puis il y a deux écoles là-dedans. Il y a l'école qui gère le risque au maximum, puis il y a l'école qui respire. Moi, vous aurez compris que je fais partie de la deuxième. Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'éléments là-dedans. Le premier, c'est que c'est très drôle de voir des gens penser qu'il s'agit juste de prendre une idée pour tout à coup la faire, puis faire exactement comme celui qui l'a fait et qui l'a bien fait. Je veux dire, moi, si je vous dis, partez un podcast qui s'appelle Angle mort, puis parlez tous les jours de quelque chose qui va intéresser du monde, puis voir les chiffres qui montent. Bien, tout le monde peut le faire. Moi, je vous parle à travers mon iPhone, là. Puis la musique d'ascenseur, c'est YouTube. Puis le début, c'est mon téléphone à côté du haut-parleur. Je peux-tu vous dire que depuis le jour 1, j'ai dit qu'est-ce qui était techniquement la prouesse d'angle mort, c'est-à-dire aucune. C'est fait vraiment avec les pires moyens du bord, mais qui sont, en date d'aujourd'hui, des bons moyens. C'est ça qui est drôle. C'est qu'à l'époque, ça prenait un studio, le micro, la patente, puis bon, bref. Mais encore faut-il que quelqu'un soit capable de le livrer, ça. Ça fait qu'on peut copier l'idée d'angle mort, et c'est même pas une idée. Parce qu'il faut comprendre ça en partant. Une idée, partout dans le monde, peu importe le droit sur le droit d'auteur, les droits moraux, etc., une idée, ça ne se protège pas. Tu peux pas protéger une idée. Tu peux pas dire, hey, j'ai une idée, moi, je vais compter des jokes dans un micro devant du monde dans un bar. Je vais appeler ça du stand-up. Puis là, dire, personne n'a le droit de faire ça. Ça, tu peux pas. Ce que tu peux, c'est la traduction concrète de l'idée sur un support. Donc, il faut en plus que ça soit sur un support. Ça peut être une bande magnétique, un CD, un fichier MP3, une feuille de papier avec un crayon, un plan d'architecte. Il faut que ça soit sur un support. En un mot, c'est pas juste deux personnes qui se jasent. Puis après ça, tu dis, hey, t'as repris la conversation? Oui. Oui, puis t'as volé mon idée? Oui. Ton idée a jamais existé ailleurs que dans une conversation dans un bar. Je peux te la voler autant que je veux. C'est que là, il y a du monde qui vont dire, ah, raison pour pas parler de notre idée? Non. Non. Oh, bien au contraire. Parce que si tu parles pas de ton idée, d'abord, il y a aucune idée révolutionnaire dans la vie, là. Il n'y a pas là, de genre, hey, je viens de penser à quelque chose que 6 milliards d'êtres humains n'ont jamais pensé. Il s'agissait juste de peser sur un bouton, puis voilà, c'est fantastique. Ça n'existe pas, ça. Ce qu'il y a, c'est des bonnes idées originales qui ont un élément qui se différencie, puis toute la capacité de la mettre au monde, puis de la concrétiser, ce qu'on appelle l'exécution. Tu peux pas dire, hey, moi, là, je vais te réaliser ça, là. Ce film-là, il va être fantastique. La caméra, tout, ça va être parfait, mais il n'y a pas d'histoire. C'est un flop total. Ça peut être une œuvre technique intéressante pour une école, mais c'est que tu peux pas exécuter le vide, puis tu peux pas juste dire, j'ai la meilleure histoire au monde, je vais te la raconter, tu vas capoter, puis après ça, je vais mettre ça tout croche dans un film. C'est pas important. L'histoire est tellement bonne que des fois, l'image va sauter, le son va manquer, mais l'histoire est écœurante. Non. Ben non. Ça fait que c'est comme ces deux affaires qui vont ensemble. Moi, j'ai toujours dit, quand vous avez des idées, c'est sûr que si votre idée, c'est de changer de job, vous n'êtes pas obligé de le crier à votre boss, OK? Je ne commencerai pas à prendre tous les cas d'espèce. Mais si vous avez une idée de quoi que ce soit, incluant changer de job, mais avec discrétion, vous gagnez toujours à en parler. Parlez-en de votre idée parce que vous ne savez pas qui, le mur à côté de vous, pourrait dire « Ah, c'est drôle, mon oncle, moi, il est en train de se partir une business. » Vous ne savez jamais. Aujourd'hui, OK, je vous le dis, aujourd'hui, je viens d'écrire à... C'est un service qui s'appelle Québec numérique. OK? Je ne me rappelle même plus où j'ai vu ça passer. C'est le ministère de la Culture, la Ville de Québec, ils ont un service qui est gratuit, donc qui est subventionné, qui permet aux entreprises culturelles de faire un virage numérique. Moi, je leur ai écrit, j'ai dit « Bonjour, j'aimerais ça qu'on se parle », parce que je ne pensais même pas que ça existait. Ça correspond exactement à mes deux parcours. C'est-à-dire que moi, pendant 15 ans de temps, j'ai fait du numérique prime time avec mon classeur, depuis 2004, qu'on était là depuis dès le début. Puis, en parallèle de ça, j'ai tout fait dans le showbiz, produit des shows, gérant d'artistes, faire de la radio, faire des shows, faire de la TV. Puis, des fois, je regarde, puis je me dis, ah, des agences qui font du marketing web, etc., ben j'ai un côté de ça, tu sais. Puis là, après ça, je vois, ah, c'est drôle, il y a tel artiste, je t'avais pris une marche avec Maxime Martin, il n'y a plus de gérant. Des fois, je me dis, je devrais-tu recopier? Mais j'ai jamais été au confluent des deux. Je pensais pas qu'il y avait quelque chose. Pensez-vous que j'ai attendu de voir, ah, y a-tu une job? Je ne serais pas coordonnateur de patente. J'ai tout de suite écrit, j'ai envoyé un CV que j'ai renippé là, depuis quelques mois. J'avais comme refait un CV que j'ai envoyé des fois pour justement exactement une démarche de même. Ça fait que je sais même pas, ils ont peut-être des jobs à offrir, mais qui sont d'entrée ou pour des juniors, je sais pas, mais ça m'intéresse pas. Mais j'ai du temps. T'sais, moi, j'ai du temps. Je fais de la radio, je fais des podcasts, je fais de la pub, mais j'ai du temps. Ça fait que j'aimerais ça pouvoir embarquer dans quelque chose qui fitterait au bout, comme ouvrir mes horizons, une autre expérience, tu sais. Ça fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié, ouais, non, mais là, je vais regarder, ah, il n'y a pas de job. Non, j'ai écrit, paf, à leur email direct, puis je me suis présenté, j'ai dit salut. Puis vu que c'est à Québec, il y a forte chance qu'ils me connaissent parce que j'étais à radio depuis tellement longtemps. Puis là, j'ai comme juste en 3-4 lignes expliqué ce que je viens de vous dire. Peut-être qu'on serait fait pour travailler ensemble. Je sais pas, mais je pose une mine. Go! Là, comme j'avais fait au début avec Gilbert Rozon. La même affaire. Peut-être qu'ils me répondront jamais. Je sais pas, c'est pas grave. Je fais juste dire que quand vous avez un projet ou une idée, c'est pas une bonne idée de dire non, j'en parle pas. Parce que je sais qu'il y a deux affaires là-dedans. Il y a du monde qui en parle pas parce qu'ils se disent... on va peut-être voler mon idée. Ça fait qu'arrêter là, de capoter, là, voler des idées, c'est comme si c'est dans les films qu'on voit ça. Là. Tu peux pas voler une idée si t'es pas capable après ça de la faire comme du monde. C'est déjà tout un exploit d'avoir une bonne idée et de la faire comme du monde. Qu'on va voler votre idée, c'est oublier ça. Puis l'autre, c'est plus l'ego de tous et chacun. C'est qu'il y a plein de monde qui disent oh, « j'en parle pas parce que si j'en parle puis que je le fais pas, le monde va dire ah, « finalement, ton idée, tu l'as pas faite. » Ça, là, c'est comme « wimpy ». Ça, c'est du grand « wimpy ». Ça fait que go, 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 on y va. Maintenant, pour revenir aux deux gars qui font la bande dessinée, etc., moi, j'ai vu ça souvent, ce réflexe-là de « on m'a copié », etc. Puis j'ai tout de suite écrit à Michel Gagné, mon ami qui fait du cinéma dans tous ces gros studios-là aux États-Unis. Puis il m'a dit « écoute, de un, il dit les studios sont paranoïaques à mort, que tout soit ultra original puis qu'il n'y ait pas de copie de rien ». Mais sauf qu'à un moment donné, on s'en sort pas. C'est sûr que tu fais un robot avec une cuirasse rouge, mais ça se peut que ça ressemble à l'autre, tu sais. Je vais finir tantôt avec une anecdote savoureuse à ce sujet-là. Il dit ça, c'est un. Il dit bah, peut-être qu'il y a eu du copiage, tu sais, comme il est comme moi, là. Il maîtrise pas ce dossier-là au complet. Mais je suis pas surpris que deux gars qui font des bandes dessinées, etc., à un moment donné, check la moindre virgule qui pourrait leur dire que c'est une copie, puis il m'a copié, puis c'est un réflexe normal. C'est un réflexe normal. Puis là, tout à coup, Michel m'a envoyé une série d'articles. George Lucas s'était fait accuser de copier. Dans Avatar, on a accusé John Cameron, voyons, mais en tout cas, Cameron d'avoir copié le réalisateur puis le créateur d'Avatar. Dans le domaine, c'est plein. C'est pas compliqué. Quand c'est un gros hit, il y a quelqu'un qui dit « tu m'as copié ». C'était aussi simple que ça. Ah, des fois, ça peut être vrai, je le répète. Mais ça reste que c'est fréquent. Puis habituellement, ils sont déboutés. C'est dans tous les cas que je vous parle, finalement, il n'y a rien qui s'est rendu en justice. On ne pouvait pas démontrer vraiment copier. Dans le domaine de la musique, c'est la même chose. Hein? Si vous vous rappelez, la toune Black Jack de Steely Dan, ça ressemblait à Billie Jean au bout. C'était la même espèce de ligne de bass, le c'est même genre. Puis là, il y avait eu toute cette polémique-là. Puis le droit n'est pas super clair là-dessus. Il y a, semble-t-il, un logiciel dans lequel tu mets deux tracks de musique, puis il peut te dire les similarités. Puis quand tu en as au-dessus de 15 % tu peux avoir un début de preuve comme quoi ce serait de la copie. Parce qu'il y a eu des vraies copies dans vie, là. Il y a eu des vraies chansons qui ont été copiées. L'autre, c'est le nombre de mesures identiques une après l'autre. Ça a l'air qu'il y a un nombre de mesures qui m'échappent. Ou est-ce que quand tout à coup, tu as, mettons, la note 1, 2, 3, 4, puis mettons 5, ou je pense... Il me semble que le chiffre, c'était 7. Quand tu avais 7 mesures identiques, on pouvait appeler ça officiellement que c'était une copie. Que ce soit volontaire ou pas, la personne qui était originale, donc qui avait des antécédents dans le temps, qui l'a fait en premier, pouvait intervenir en disant « Tu peux pas faire cette toune-là parce que... » Alors, c'est évidemment, ça parle aussi de à quoi ça sert le droit d'auteur, à quoi ça sert les brevets. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ce qu'il faut jamais oublier dans l'idée des brevets, c'est que si tout à coup, il n'y avait pas de brevet, ben là, ça veut dire que toutes les recherches puis tout l'investissement que tu as fait pour arriver à créer quelque chose qui est complètement nouveau et inédit, ben là, n'importe qui réussit à copier ça, là, il peut t'imiter totalement, baisser le prix, puis ramasser toute la plus-value. C'est-à-dire que où il y a vraiment quelque chose à surveiller, c'est que comment faire en sorte que dans le pharmaceutique, par exemple, les compagnies pourraient mettre des millions en recherche pendant, des fois, c'est 20 ans, hein, pour arriver à, mettons, la pilule contre le cancer, mettons. C'est-à-dire que là, 25 ans de recherche, 800 millions de dollars. Puis là, tout à coup, t'arrives, puis là, ben, il y a une formule très claire à ce médicament-là. Si tu copies ça en te disant « Ah, oh, ben c'est pas grave, parce que... » Ben oui, c'est grave, parce que ça veut dire que toi, ça t'a coûté 800 millions de moins pour arriver à la même affaire. C'est-à-dire que si c'est ça, qui va vouloir mettre 800 millions pour éventuellement dire que le compétiteur part avec, puis toute la plus-value? C'est-à-dire qu'il y a tout un débat là-dessus qui est intéressant, puis qui, en création, a aussi lieu. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser, parce que je voulais juste vous faire les grandes lignes de ça, mais c'est bien intéressant. Puis c'est pas parce que quelqu'un crie à la copie honteuse que c'est effectivement le cas. Puis je vous laisse avec ça, matière à réflexion, mais je trouve ça toujours savoureux à chaque fois que ça parle du sujet du copiage. Et ça, j'ai lu ça dans l'actualité, il y a de cela beaucoup de temps, plusieurs années, peut-être 20 ans. Les Soviétiques, les Russes, avaient un projet de navette spatiale, peu de temps après celle des États-Unis. La première qui s'appelait, je ne sais pas quoi, Challenger, je pense, ou en tout cas la toute première, Columbia, je pense que c'est Columbia. Et puis, ils ont fait une conférence de presse, ils ont invité la presse internationale pour faire le lancement, puis dire, voici ce à quoi va ressembler notre navette, pour laquelle on s'en va dans le même genre de conquête de l'espace que les Américains, on ne va pas rester en reste, etc. Et, bien entendu, comme on s'en doutait, la navette, ou pas, mais bref, la navette était identique à la navette américaine. Elle avait bien entendu pas les mêmes couleurs, pas le même drapeau, c'était une étoile rouge, puis blablabla. Mais elle était pareille. Ça fait que là, il y a un journaliste, de surcroît américain, qui pose la question de l'éléphant dans la pièce. « Monsieur, est-ce que de façon flagrante, est-ce que vous avouez pas là que vous avez littéralement copié la navette américaine? » Vous vous doutez que du côté soviétique, les gens devaient s'attendre à cette question-là? Et la réponse spectaculaire, ça aurait pu être juste la seule phrase sur le sujet d'aujourd'hui. Écoutez, monsieur, de deux choses l'une, ou bien on a copié la navette américaine, ou les lois de la physique s'appliquent à tout le monde sa planète. Et voulant dans les dents, voulant dire, ben si tu veux faire voler une fusée, puis la faire revenir, atterrir, ben il faut qu'elle ait de l'air de ça. C'est plate, là, mais s'il y a de l'air de d'autres choses, ça marche pas. Faut que ça soit fait de même avec un fuselage, puis un aileron, puis des ailes, puis... Écoute, on aurait pu te mettre, si tu veux, un arbre de Noël en avant, mais au final, il faut que ça soit fait de même. T'sais, j'ai toujours trouvé que cette réponse-là était extraordinaire, puis que ça calme bien du monde qui trouve qu'à tout bout de champ, ils se sont fait copier. Salut, bonne journée!